savoir, Louise Touret.
Et nous sommes en direct et en public au salon Livre Paris, le salon du livre, 28e numéro pour être et savoir, moins le quart, vous le savez. Un quart d'heure de notre émission est cédé aux conférences de Carême jusqu'au 14 avril, ce qui ne nous empêche pas de traiter des sujets passionnants comme l'évolution, la révolution même de l'édition jeunesse, révolution féministe. Alors les livres nous éduquent-ils? Les représentations du monde qui circulent façonnent sans doute les nôtres. C'est ce qu'on appelle la culture, les livres qui nous entourent ici, dans cette immense librairie qui est le salon du livre, les livres qui nous ont accompagnés, distraits, consolés, nous ont raconté et montré tant de possibles. Ils ont construit nos représentations, ou pas? Parce que c'est la question que pose l'actuelle transformation de l'édition jeunesse. Il s'y joue, je l'ai dit, une révolution dans laquelle des questions brûlantes sont posées. C'est la question du genre, une question qui est posée de manière militante, de manière subtile, avec humour aussi à travers des textes et des images. C'est ce qui caractérise l'édition jeunesse. L'idée centrale, eh bien, c'est de remettre en cause les stéréotypes et nos représentations, déconstruire, mais aussi construire une vision du monde, une vision plus ouverte. Ainsi, un nouveau type de livre pour enfants féministes rencontre un succès croissant. Ils sont de plus en plus nombreux et populaires. Histoire du soir pour filles rebelles, immense succès publié aux arènes. Les culottés de Pénélope Bagieu qui s'adressent à tous, mais aussi à la jeunesse. Les livres de Clémentine Beauvais, on se souvient en particulier du désopilant Les Petites Reines. Voilà, toujours de nouvelles publications avec des maisons d'édition très engagées. Alors cette vague féministe sur l'édition jeunesse peut-elle changer nos regards, celui des enfants, celui des parents, des éducateurs, en faisant circuler des représentations plus variées? Du côté des petites filles, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre, mais aussi du côté des petits garçons, fait-elle plus plaisir aux adultes militants qu'aux jeunes lecteurs? Peut-elle devenir centrale, mainstream comme on dit parfois? On va poser la question à nos invités, autrices, éditrices et spécialistes de la littérature jeunesse. Autre vague en fin d'émission, celle de l'écologie dont on a beaucoup parlé cette semaine avec une grève scolaire et une immense manifestation hier samedi, à la veille d'une autre semaine spéciale, celle de la presse et des médias à l'école. Je me suis rendue dans une classe média qui a choisi de travailler sur l'environnement en cette semaine d'actualité environnementale et toute l'année en fait, et loin des grandes manifestations, mais ils sont très concernés. Les élèves de 3e C du collège Anatole France m'ont parlé de leurs peurs, de leurs espoirs et de leur mobilisation pour le climat. C'est tout à l'heure, en fin d'émission. Et je salue mes invités et ES Sophie Gourion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteure ou autrice?
Les deux, comme vous voulez. Moi, j'aime bien dire auteur E avec un E, parce qu'en général, je dis autrice, les gens sautent au plafond tout de suite. Donc, pour apaiser le débat, je commence par auteur et je glisse autrice ensuite.
On peut jouer sur ces deux mots. Les filles peuvent être autrices, les filles peuvent le faire aussi, les garçons peuvent le faire aussi. C'est publié chez Grund, ça a paru il y a un mois, et vous êtes créatrice du blog Tout à l'ego. On peut dire que vous êtes féministe.
Ah oui, assumée.
Je crois, oui, puisque je vous suis sur les réseaux sociaux. Deux éditrices avec nous, Laurence Faron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et éditrice des éditions Jeunesse Talent Haut, et vous inaugurez une nouvelle collection, Plumée, une collection qui met en valeur des autrices ou auteurs, moi j'aime bien dire autrices, qui étaient un peu oubliées, on peut dire ça?
Oui, qui étaient oubliées par la postérité, même si elles avaient eu en leur temps, c'est Plumée et ES, bien sûr, un succès de librairie, d'estime, de critique, et pourtant ne sont pas passés ni dans les livres de classe, ni dans les bibliothèques, ni encore moins dans les rayons des libraires. Donc l'objectif de cette collection Les Plumées, c'est de les rééditer, de rééditer des œuvres du patrimoine. Du matrimoine.
Même
moi, je fais des lapsus.
Un peu oublié, et puis plein d'autres livres qui s'adressent aux enfants. Aux jeunes, on va y revenir. Une autre éditrice avec vous, Marianne Zuzula, bonjour.
Bonjour.
Votre maison d'édition, c'est La Ville Brûle. Alors, vous publiez plein d'ouvrages comme La Ligue des super féministes et vous rééditez des ouvrages pour enfants, ça s'adresse aux filles et aux garçons, mais j'ai devant moi les filles d'Agnès Rosenthal. Alors Agnès Rosenthal, c'est une autrice que tout le monde connaît, c'est l'autrice de Mimi Cracra. Donc c'est un petit personnage qui a marqué ma génération. Mais avant, elle avait créé ce qui est un des premiers livres pour enfants féministes.
Oui, en effet, Les Filles, c'était le premier livre jeunesse féministe français publié aux éditions des Femmes, donc les éditions du MLF à la toute fin des années 60.
Et un livre très précurseur qui est très libre de ton, qui parle de la sexualité, de comment on se regarde entre filles et garçons, et puis qui interroge les stéréotypes. On va beaucoup parler de cette question avec vous aussi, Nelly Chabrol-Gagne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Clermont-Auvergne, co-responsable pédagogique du Master Création éditoriale des littératures de jeunesse et générale, et auteure ou autrice de Filles d'albums, édité à l'Atelier du Poisson Soluble en 2011. Alors, on va commencer tout de suite avec cette question de la représentation. Je parlais du climat. Un de mes comptes préférés sur Twitter, c'est celui des correcteurs du Monde. Et il relevait qu'à l'occasion de ces manifestations pour le climat, on parlait beaucoup d'égérie. Vous savez, Greta Thunberg, ce serait une égérie de l'écologie et de l'engagement climatique. Alors, pourquoi pas un leader, s'interrogent les correcteurs du Monde, ou une dirigeante. Et finalement, l'égérie, c'est vraiment un personnage littéraire par excellence. C'était encore dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin, une égérie et non une leader. On est en plein dans nos représentations. C'est ça que vous cherchez à changer avec votre ouvrage et à interroger, Sophie Gourion ?
Oui, tout à fait. Les mots sont porteurs de valeurs, de représentation, et le mot égérie est emblématique, puisqu'à la base c'était une nymphe que le roi venait consulter. Et aujourd'hui, c'est devenu simplement l'inspiratrice d'un homme politique, d'un poète. Donc, elle est reléguée au second plan. Et oui, je voulais travailler sur les représentations qui commencent très, très tôt, en fait, dès la maternelle, dans la classe de ma fille. J'ai vu une petite fille arracher des mains une poupée d'un petit garçon en lui disant « c'est pour les filles ». Donc, ça commence très tôt. Ça commence même dans la cour de récréation où on voit que l'espace central de la cour est occupé par les garçons qui jouent au ballon et les filles sont un peu reléguées dans les coins. Donc, c'est pour ça que je trouvais important de s'adresser aux 3-6 ans parce que ça commence très tôt et qu'il est important de déconstruire ces stéréotypes le plus tôt possible.
Alors, dans ce livre publié chez Grund, dont vous avez écrit le texte, qui est important finalement, ce sont les images. Parce que ce qu'on voit, c'est... Alors sur la couverture, il y a une petite fille en pirate, elle est en jupe, mais elle porte un sabre, et puis un petit garçon qui fait de la danse.
Absolument. Alors moi, j'ai travaillé les textes sous forme de comptines, quelque chose de très chantant, de très doux, justement, pour pas qu'il y ait ce côté trop militant, donneur de leçons. Et je trouve que les illustrations viennent vraiment aussi adoucir le propos, leur donner un côté très poétique. Il y a des vraiment très très belles doubles pages, notamment quand les enfants jouent sous la pluie, qui sont magnifiques. Et en effet, les textes sont très chantants et le propos est porté par de très très jolies images aussi.
Illustration d'Isabelle Maroger. Alors Nelly Chabrol-Gagne, vous étudiez à la fois cette littérature jeunesse et comment elle est portée? Parce que ces livres, pour les enfants tout petits, ce sont les adultes qui les lisent. Alors est-ce que les stéréotypes sont véhiculés par les livres eux-mêmes ou par ces adultes qui sont façonnés par tout un tas de visions du monde qu'on véhicule parfois même sans s'en apercevoir en lisant Choupi, Petit Ours Brun, Martine, L'Âne Trottereau, je ne sais pas.
La littérature de jeunesse s'adresse aux enfants, sauf que la littérature de jeunesse, elle est faite par des grandes personnes. Exclusivement par des grandes personnes, c'est des auteurs grandes personnes qui les font, ce sont des éditeurs et des éditrices qui éditent ces textes-là. Donc forcément, ce qui est véhiculé dans ces livres, c'est toutes les idées, les stéréotypes aussi de ces grandes personnes qui arrivent. Donc au bout du livre, il y a les enfants, mais au départ, il y a toujours ces grandes personnes qui elles-mêmes sont pétries de toute leur culture, de toute leur lecture, et donc qui injectent consciemment ou inconsciemment ce qu'elles et ce qu'elles sont. Donc après, c'est à l'enfant de faire le départ, si j'ai envie de dire, entre ces représentations d'adultes et eux et elles, en tant qu'enfants, ce qu'ils vont pouvoir en faire comme lecture. Parce que la lecture de l'enfant, même si elle est conditionnée, même si elle est orientée, l'enfant gardera tout son potentiel et inventera son histoire
C'est un lecteur créatif. L'enfant, il conserve tout de même une certaine liberté, même si ça commence très tôt, comme l'a dit Sophie Gourion. Vous êtes d'accord, c'est dès 2, 3, 4 ans que les stéréotypes de genre se construisent, et ils se construisent aussi à travers cette littérature jeunesse.
Ça commence très tôt, ça commence dès la maison, ça commence à la crèche. Il y a un rapport très intéressant d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années sur ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas dans les crèches et comment on orientait déjà les tout-petits dans leurs activités. Une toute petite anecdote, un petit enfant, c'est un petit garçon dans une crèche qui est en train de pousser une petite poussette et le personnel de la crèche lui dit « Tu joues à la maman ?» Et l'enfant tout petit dit « Non, je joue au papa. » Donc faisons confiance aux enfants, parce que je crois que les enfants sont capables, eux, d'arriver, eux et elles, avec, de renverser cette vapeur-là qui est bourrée de stéréotypes. Donc oui, ça commence très jeune, ça commence très vite, ça commence dans les familles, ça commence dans les crèches et ça continue à l'école.
Alors, ce qui interroge la présence de tel ou tel type de livre dans les crèches et les écoles, je vais poser la question aux auditrices. Vous êtes aux éditrices, vous êtes deux éditrices militante, on l'a dit. Comment être présent quand les livres les plus vendus et pour les tout-petits, ce sont des références comme j'aime bien parler de Choupi. Alors c'est un petit, ce sont toujours d'ailleurs des personnages avec, ce sont des petits animaux, mais ce sont des petits garçons aussi. Comment vous arrivez derrière, vous dire on va déconstruire ce qui est déjà par ailleurs assez construit. Laurence Farron.
Talarou, c'est effectivement construit sur l'idée qu'il fallait ouvrir le champ des possibles pour les enfants, proposer des modèles différents, mais surtout être attentif aux discriminations dans leur ensemble et sexistes en particulier, d'où le slogan de Talent Haut, on bouscule les idées reçues, des livres qui bousculent les idées reçues. C'est une façon un peu plus facile de dire on déconstruit les stéréotypes. La difficulté, c'est que quand on déconstruit, il faut commencer par énoncer. Énoncer un stéréotype, est-ce qu'on ne va pas le renforcer ? Donc c'est ce genre de difficulté auquel, en tant qu'éditrice, je suis confrontée sans arrêt. Faut-il énoncer avant de dénoncer ? Est-ce qu'il suffit de mettre un slogan ou une héroïne intrépide en couverture pour que le livre soit, comme vous le disiez, entre guillemets, féministe ? Le livre véhicule une représentation du monde global, complète. Si vous avez une fille super dynamique en couverture, c'est bien, mais si la famille qui est représentée parmi les personnages secondaires, par exemple, est toujours et encore complètement stéréotypée, avec une maman qui ne travaille pas à l'extérieur, comme dans la plupart des livres pour enfants, ou avec un papa qui revient du travail, comme dans la plupart des livres pour enfants, finalement, ce livre restera très conformiste, très traditionnel, et véhiculera des stéréotypes parfois à l'insu de son autrice ou de son éditrice.
Moi, je relève que souvent la mère est morte dans les livres jeunesse, mais c'est un autre sujet. Marianne Zouzoula, même question. Donc, agir sur des représentations. Et puisque Laurence Farron n'a pas tout à fait répondu, comment on fait pour être présent là où sont les enfants ? Ça veut dire, y compris vendre vos livres, je sais pas, dans les supermarchés, là où on les achète ?
Alors, en effet, c'est un petit peu compliqué d'être vendu pour des livres comme les nôtres, en tout cas dans les supermarchés. C'est pour ça que je pense qu'on peut quand même vraiment saluer le fait que, y compris les plus gros éditeurs qui font des livres très commerciaux, progressent, et notamment avec le livre de Sophie qui, lui, est vendu dans les supermarchés. Et ça, c'est vraiment formidable. Et effectivement, pour répondre à la première partie de la question, nous, en fait, à La Ville Brûle, on n'est pas qu'un éditeur jeunesse. En fait, on est une maison d'édition généraliste. On fait très peu de livres, mais pas uniquement pour enfants. On fait beaucoup de livres politiques, en fait, et de livres qui visent à déconstruire les stéréotypes, dont les stéréotypes de genre. Et c'est vrai que on a souhaité aborder cette question-là d'une façon très, très frontale, en fait, et voire même très, très brutale. Ce qui oblige en fait à ce que le livre soit lu par les enfants et par leurs parents, parce qu'en fait on a besoin d'éduquer les enfants, mais je pense surtout leurs parents. Et effectivement, comme le disait Laurence, là pas dans les livres mais dans le réel. Moi je pense qu'il y a que le réel en fait qui peut changer le réel. Et c'est vrai qu'on peut lire des livres féministes à ses enfants, des livres antisexistes, si c'est la mère qui accomplit l'essentiel des travaux ménagers et du travail domestique pendant que le père regarde Netflix, ça fonctionnera pas. Et à l'inverse, voilà, moi je sais que mes filles adoraient Roule Galette quand elles étaient petites, et moi j'aimais beaucoup Agnès Rosenstiel et Roule Galette. Et voilà, c'est un livre qui commence avec un gros pépère dans un fauteuil qui dit « Femme, j'ai faim, fais-moi une galette ». Et ça m'a pas empêché d'être féministe pour autant, ni mes filles. Donc je pense qu'il faut un peu relativiser le pouvoir des livres et plus se concentrer sur voilà sur le réel. Et voilà, c'est pour ça que nous on essaye de faire des livres qui obligent aussi les adultes à se remettre en question.
Vous écoutez Être et Savoir, vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes à Livre Paris et nous parlons d'une révolution dans l'édition jeunesse, une révolution féministe. Alors, va-t-elle pouvoir changer les regards? Je me suis intéressée aux livres qui circulaient un petit peu partout. Alors, j'ai ressorti, par exemple, la bibliothèque rose. Alors, rose, c'est la couleur des petites filles et les malheurs de Sophie, les petites filles modèles, et puis les vacances. Ce sont des livres très roses. Rose devant, rose derrière, avec des petites filles, avec des belles robes. Pourtant, un petit garçon devrait pouvoir lire, non, la comtesse de Ségur. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des éditeurs aussi dans la manière de présenter les livres? Et on veut tellement que les enfants lisent, après tout, qu'on est prêt à marketer de manière à ce que ça leur plaise à tout prix. Nelly Chabrol-Gagne.
Oui, enfin là, ça serait plus aux éditeurs et aux éditrices de répondre
sur cette question. Vous connaissez tous ces livres et vous connaissez cette histoire de l'édition jeunesse.
Oui, alors justement, si on s'intéressait juste au nom, l'édition jeunesse, les livres pour jeunesse commencent quand? Avec les Contes de Perrault, on est en 1697. Après, c'est Télémaque, 1699. Et si on file, on s'aperçoit que tous les noms des personnages sont des noms de garçons. Et que les garçons, donc lecteurs, se sont identifiés à des garçons, mais que les filles lectrices, nous avons dû, et nos ancêtres aussi, ont dû faire cet effort-là, aussi de s'identifier à des personnages garçons. Et si on continue, on s'aperçoit que la liste est longue de ces noms de garçons. Vous avez cité les malheurs de Sophie, et c'est heureux, je vous en sais gré, mais ce sont les malheurs qui lui arrivent, et rarement des aventures ou des mésaventures.
Oui, mais elle fait des bêtises.
Mais bien sûr qu'elle fait. Oui, mais le titre du livre, c'est les malheurs, c'est pas les bêtises de Sophie. C'est un livre terrible, si on y pense bien. Et je vais au XXe siècle, trois noms de garçons héroïques qui ponctuent le XXe siècle, la littérature jeunesse. Peter Pan, Le Petit Prince, Harry Potter. Avouez que c'est dur, là, pour une fille de s'immiscer. Donc, déjà, là, dans le personnage héroïque, et quand on pense à un livre de jeunesse, il y a forcément des personnages. Et si on s'interroge à son sexe, eh bien, on s'aperçoit que massivement, ce sont des personnages garçons. D'ailleurs, toutes les études l'ont montré, et même Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, en 1949, dira tout le mal qu'elle pense des contes, parce que nous parlions tout à l'heure de Perrault. Perrault, il y a deux petits personnages, le petit chaperon rouge et le petit pousset, avec petit. Petit chaperon rouge, on aurait pu rêver d'un autre destin pour elle, ça se passe mal à la fin. Petit pousset, ça se passe bien. De surcroît, il s'enrichit.
Parce qu'il est très intelligent et c'est ça qui est mis voilà. En valeur et exemplaire, alors que la fille est présentée comme une victime, faut-il le rappeler? Alors je lisais pour préparer cette édition un certain nombre de livres, et un livre qui ne s'adresse pas aux enfants mais plutôt aux adultes, c'est celui de Marie Donzel, cette icône de la pop culture pour comprendre le sexisme. Et ce qu'elle met en avant dans ce livre, c'est à quel point ces représentations des personnages féminins ont façonné nos représentations des hommes et des femmes. Et puis elle parle de la Schtroumpfette. La Schtroumpfette, c'est un personnage intéressant puisqu'il y a une Schtroumpfette pour un nombre à peu près infini de Schtroumpfs. Enfin, je ne sais pas combien ils sont censés être. Et puis ça, on le retrouve à peu près sur toutes les affiches de films. J'étais dans le métro pour venir, voilà. Six personnages masculins, une fille en général un peu plus jeune avec des jolis cheveux, un beau brushing, même si elle se bat elle aussi pour sauver le monde. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a encore ça. Comment on fait pour remettre les filles au centre? Et je le redis, pour que les lecteurs garçons soient aussi au rendez-vous. Qui veut répondre? Marianne Zuzla.
Oui, je veux bien. C'est un point justement qui est abordé dans un de nos derniers ouvrages qui s'appelle La Ligue des Superféministes. C'est une super BD de Myrion Malle. Et elle parle justement de ça. C'est qu'en fait, les filles, très souvent dans la pop culture, dans les séries, dans les films, etc., il y a plein de garçons donc qui ont tout un panel de personnalités. Il y a le geek, le sportif, le rigolo, le costaud, etc. Et il y a une fille, comme la Schtroumpfette. Et elle, son rôle, c'est d'être la fille. Et elle n'a pas de personnalité. On n'imagine pas qu'elle puisse interagir avec les autres personnages autrement que par son genre, à savoir être un objet d'envie, de désir, de conflit amoureux, etc. Et c'est vrai que c'est un point super important. Après, ce qui est bien, et je pense là on va vraiment vers une amélioration, c'est que maintenant, grâce à la multitude d'ouvrages, d'études, à la formation des médiateurs du livre et des enfants, des ados eux-mêmes, ils s'en rendent compte. Ça veut dire qu'ils sont pas dupes, même si l'univers de la pop culture, des films, des séries évolue. Pas forcément assez rapidement, mais évolue quand même. Et en tout cas, voilà, les gens le voient et ils sont capables de décrypter ça et de voir qu'il y a la fille et plein de garçons. Voilà, donc on va quand même faire du mieux là aussi, je pense. Ouais.
Alors dans cette édition jeunesse un peu militante, il y a énormément de livres et c'est pas pour rien qu'au départ j'ai parlé des histoires du soir pour filles rebelles, des livres qui mettent en valeur de grandes figures féminines, sinon féministes. On va parler d'Olympe de Gouges, de Marie Curie, d'Angela Davis comme dans ce livre « Femmes 40 combattantes pour l'égalité », c'est chez Gallimard Jeunesse. Moi quand j'étais petite j'avais un livre des Wolinski qu'ils ont écrit pour leur fille, « Maman pourquoi il n'y a pas de femmes dans l'histoire ?» Et finalement, ces figures mettent les femmes dans une position où on dit, pour être une grande femme, pour être une femme, il faut devenir une héroïne. En plus, il faut devenir une militante. Est-ce vraiment féministe que d'assigner, encore une fois, les femmes à un destin de lutte, se figurions ?
Oui, j'ai remarqué aussi, en fait, c'est très bien d'avoir des héroïnes féminines fortes dans les livres. Mais je me suis posé la question aussi de savoir, est-ce que là, on ne crée pas une injonction supplémentaire sur les épaules des filles ? En fait, on a eu un peu le même phénomène quand les femmes ont gagné le droit de travailler, d'être un peu sur tous les tableaux, travailler, avoir une famille, une belle maison bien rangée. Et on se rend compte qu'en fait, on a créé une espèce d'injonction de superwoman chez les femmes que je crains un peu de retrouver chez les petites filles, à savoir, soit belle, soit une combattante, soit une badass, soit une superwoman. Et en fait, les petites filles qui ont juste pas envie de ça, c'est compliqué pour elles. Et d'ailleurs, sur Twitter, l'autre jour, j'ai une maman qui m'a dit « Ah, ma fille a adoré ton livre », mais elle m'a juste dit « Oui, être présidente, c'est super, mais moi, j'ai pas envie, en fait. C'est trop fatigant, faut faire sa pub toute la journée. Moi, je veux être juste vétérinaire. » Et donc, je trouve que c'est important de dire aux filles « Tu peux, en effet, être présidente, mais tu peux aussi être vétérinaire. Tu peux aussi ne pas avoir envie de travailler. » Voilà. Moi, en tant que féministe, pour moi, le féminisme, c'est vraiment donner le choix aux femmes. C'est-à-dire, je ne vais pas dire aux femmes « Je vais venir te libérer en te disant que tu dois absolument travailler, sinon tu es une mauvaise féministe. » Moi, je dirais aux femmes, tu peux être féministe en étant femme au foyer, en ayant 3 enfants, en n'en ayant pas. Je pense que pour les petites filles, c'est très bien de leur proposer des modèles positifs. Attention, en revanche, à ne pas créer une nouvelle injonction supplémentaire.
Une injonction du côté des filles. Alors, il y a aussi des injonctions pour les garçons. Hein, vous les interrogez dans votre ouvrage. Des personnages, finalement, qu'on a du mal à banaliser. Parce qu'il faut être soit une super-héroïne, soit une figurante. Et puis, il y a tous ces petits animaux. Je reviens à Choupi, même si j'ai pas une grande passion spécifiquement pour ce personnage. L'âne Trotro, il est très marrant, l'âne Trotro. Et ce sont tous, par défaut, des petits garçons. Ça rejoint un débat très, très brûlant chez les féministes, celui de l'universalisme. Alors, est-ce que la figure, par défaut, c'est toujours un petit garçon, un homme, quand c'est un hippopotame, une girafe, comment on sexue tous ces petits personnages, c'est une question, non, Nelly Chabrol-Gagne?
Oui, je pense que c'est une vraie question. Mais puisque vous parlez des animaux, il y a beaucoup d'animaux en littérature de jeunesse. Et je n'oublie pas que Christian Bruel, lorsqu'il fonde sa maison d'édition Le Sourire qui mord en 1975, la fonde aussi contre un animal, c'est une éléphante, elle s'appelle Rose Bonbonne, c'est publié aux éditions des Femmes, c'est un des tout premiers livres féministes avec des animaux. Et il nous dit, Christian Bruel, et je pense que son message est important encore à entendre aujourd'hui, il répond par un livre qui s'appelle « Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon ». Donc par un vrai une histoire, une fillette avec une famille, un décor. Et je vous invite à regarder à nouveau cet album qui a été réédité chez Thierry Magnier. Vous avez un zoom avant dans la chambre de Julie avec tous ses jouets. On est en 1975-76. Ce sont des objets qui ne sont pas genrés. Et là, je crois que les enfants, bien sûr, ils ont besoin des animaux aussi dans les histoires, mais ils ont besoin aussi d'êtres humains qui ont des histoires simples, au fond. C'est leurs histoires, des histoires du quotidien, mais de vraies histoires qui se déroulent. L'album, c'est quelques pages. Donc, il faut qu'il y ait une histoire qui se déroule. Et Julie change dans l'album. Voilà, c'est un album qui l'a fait changer, mais au milieu d'un contexte réel. Marianne Zouzoula parlait tout à l'heure de réel. Il faut injecter du réel dans les albums pour enfants. Des animaux, oui, mais aussi des êtres humains capables de porter des histoires simples, mais complexes, puisque c'est des questions d'identité qui sont abordées là.
Et cette question de l'identité, elle est très spécifique dans le temps de l'enfance, parce que ce à quoi on a assisté depuis les années 70 et particulièrement plutôt depuis les années 90, c'est une espèce d'hypersexuation très commerciale du monde de l'enfance. On l'a vu à travers les jouets, on a comparé les boîtes de Lego des années 70, ça vaut pour les Playmobil et j'imagine plein d'autres jouets, je n'ai pas toutes les marques en tête, elles sont devenues roses pour les filles, elles étaient déjà en général bleues et on les a genrées. Et finalement, aujourd'hui, un courant de l'édition répond à cela, mais on a l'impression qu'on n'arrive plus à se départir de l'idée que bah, peut-être entre 0 et 6 ans, puisqu'après tout, on voit les photos de Victor Hugo petit avec ses cheveux longs, et ça, voilà, on a élevé les petits garçons comme ça avant 7 ans, jusqu'au début du 20e siècle, à cette injonction d'être sexué. Mais si tôt, est-ce que c'est pas de ça, de cela qu'il faudrait sortir? Est-ce que les livres pour enfants pourraient évoluer de cette manière-là, Laurence Faron?
Vous parlez de révolution féministe, j'aimerais que vous ayez raison, mais je pense qu'on est plutôt dans une mode féministe. J'aimerais voir où on en sera dans 5 ans, si on aura toujours autant de livres qui traitent des girl power et qui mettront en avant des superwomen comme modèle pour des filles. Le vrai problème, c'est l'éducation. C'est pas ici que je serai contredite. Le vrai problème, c'est qu'il faut effectivement que les garçons, eux aussi, aient des modèles différents, où ils puissent, où on les montre exprimant des émotions, pour que les hommes de demain soient différents de ceux d'aujourd'hui et encore plus de ceux d'hier. Donc la révolution, elle est peut-être en marche, je le souhaite. Je pense qu'on n'est plus en 2019 comme avant la vague MeToo qui a quand même fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'on avait un problème. Mais je pense qu'on est quand même encore assez loin du changement fondamental. Il ne se fera que sur le très long terme, que si nos enseignants et nos enseignantes s'emparent du problème, s'emparent des livres dont on vient de parler, là, qui sont effectivement des livres différents. Mais tant que la segmentation livre rose, livre bleu sévira toujours, et quand on se promène dans les allées de ce salon, on peut constater qu'elle sévit toujours, malgré les quelques exceptions dont nous parlons. Tant qu'on vendra plus de livres, si on dit « Ah, ça, c'est pas pour toi, c'est pour une fille, tu vois bien, c'est un livre rose », ou l'inverse, finalement, on sera quand même encore assez loin de la révolution, et plutôt dans la mode, malheureusement.
Il y a une belle couleur, hein, c'est le violet. Alors, c'est voilà, Femme 40 combattante, il est violet, c'est la couleur de France Culture. Alors, je vais à toutes vous soumettre cette question mode ou révolution. Est-ce qu'il y a un effet de mode ou un effet de contexte? Est-ce que vous liez aussi cette actualité de l'édition à MeToo, Marianne Zouzoula?
Oui, je pense en effet que Laurence a raison et qu'il y a un effet de mode, et que le titre de l'émission, c'était voilà, est-ce qu'il y a une révolution féministe dans l'édition jeunesse? Moi, je pense qu'elle a eu lieu, voilà, il y a bien longtemps. Hein. Nelly parlait du livre de Christian Bruel, l'histoire de Julie qui avait une âme de garçon. Voilà, là, on réédite aujourd'hui des livres d'Agnès Rosenstiel qui ont plus de 50 ans. Mais pour des raisons commerciales, en fait, hein, les gros éditeurs, les éditeurs commerciaux, bah voilà, préfèrent faire des livres roses et des livres bleus. Ils savent que les filles achètent des livres roses et des livres bleus, et qu'elles s'identifient à des héroïnes et à des héros, et que les garçons, eux, à l'inverse, on ne les a jamais éduqués à faire ça. Et voilà, c'est vrai que les gros éditeurs, je pense, vont continuer à scinder en deux et à conforter les gens dans l'idée qu'il y a des livres pour filles, des livres pour garçons, ce qui est effectivement assez mortifère et contre-productif. Et voilà, c'est une éducation qui va être longue. Les gens, voilà, entrent dans les librairies et disent voilà, je voudrais un livre pour une petite fille de 6 ans ou pour un garçon de 8 ans, ce qui est absurde. On n'a normalement pas besoin de préciser le genre de l'enfant à qui le livre est destiné. Ouais.
Sophie Gourion, mode ou changement durable, est-ce qu'on devrait ne pas avoir besoin de préciser le genre de l'enfant? Votre livre s'adresse, alors il y a deux côtés, ça s'adresse...
Ouais, absolument. Mais c'est une volonté justement de ne pas genrer ce livre et aussi de montrer que les garçons peuvent être aussi victimes de stéréotypes. Donc les petites filles peuvent lire la partie garçon et fille et inversement. Alors justement, il y avait une volonté de pas genrer ce livre parce qu'il y a effectivement trop de choses genrées entre les Lego pour filles, les Lego pour garçons. J'ai vu qu'il y avait des livres de coloriage pour filles, des livres de coloriage pour garçons. Il faut qu'on m'explique la différence. Donc là, c'était aussi une volonté de l'éditeur, et je le salue, parce que c'est une maison grand public, et son intérêt financier aurait été d'éditer deux livres, finalement, et il a respecté ma volonté de n'en faire qu'un. Et je trouve ça intéressant, justement, parce que moi, à travers mon blog, je touchais un public essentiellement militant, et là, avec cette maison d'édition grand public, on parle vraiment, on va au-delà du cercle militant. Donc je trouvais ça très intéressant. Et de montrer en effet aux enfants qu'un livre peut se lire d'un côté comme d'un autre, qu'on soit un garçon ou une fille. Et ça permet également aux filles de voir qu'elles peuvent éventuellement elles-mêmes véhiculer des stéréotypes et de se dire « Ah mince, quand j'ai dit à mon petit frère que c'était pas un vrai garçon parce qu'il pleurait, je m'en étais pas forcément rendu compte. »
Alors, je crois que des stéréotypes, c'est très difficile de pas en véhiculer. Après, on peut les interroger et ils sont aussi interrogés dans les livres plus anciens, pas militants, des livres qui circulent partout et qu'on peut lire de plein de façons. Je voulais parler des livres de Tommy Ungerer et des Trois Brigands avec vous, Nelly Chabrol-Gagne, parce que ce livre, on peut le lire de plein de façons, on peut y voir plein de choses, on peut y sentir, ressentir plein d'émotions et plaquer plein de choses sur les personnages. Ça, c'est l'imagination des enfants.
Oui, et puis là, on a affaire à... Vous parlez des Trois Brigands. On a affaire à une œuvre, une véritable œuvre, comme tant d'autres livres. C'est-à-dire qu'on reprend ce livre et c'est une nouvelle histoire chaque fois. Alors, les Trois Brigands arrivent en France à peu près en 1968, c'est-à-dire l'année même où Marlier écrit Martine Petite Maman. Et même dans Martine Petite Maman, on pourrait trouver une page très intéressante où Martine n'est pas là et que fait Martine quand elle n'est pas là. Mais pour revenir aux Trois Brigands, les enfants feront les lectures qu'ils voudront. Mais toujours est-il que ça fait peur, un titre pareil, Les Trois Brigands.
Ils effraient.
Les maxi-monstres n'effraient pas, mais les Trois Brigands effraient. Il n'empêche que si on lit cette histoire...
Donc c'est une petite fille qui va être enlevée par trois brigands qui sont censés être très méchants et qui sont munis d'une hallebarde, d'un
troublion.
Poivre.
Oui. Voilà.
Et
effectivement,
ils sont très méchants. Effrayants pour les adultes.
Sauf que ces trois brigands sont attirés par le jaune. Alors, l'or des pièces est jaune, mais la coiffure de Tiffany est jaune aussi. Et ils vont enlever cet enfant, mais pour son bien-être, parce qu'elle est abandonnée, elle va aller dans un orphelinat. Et non, elle ne va pas dans l'orphelinat, elle est enlevée et élevée par ces trois brigands. Et moi, l'une des toutes dernières lectures que j'ai faites de ces trois brigands, parce que oui, je confesse, je lis beaucoup, beaucoup de livres pour enfants, c'est de me dire qu'à la fin, ces trois brigands, ce sont trois hommes qui font famille autour des enfants. Et ça, c'est quand même en 1960, au début des années 60, en 68, assez extraordinaire, et je suis sûre que les enfants, certains enfants, ont fait cette lecture-là, qui, pour le coup, est une lecture subversive. Il y a toujours des restes dans les histoires, comme aurait dit Pierre-Jules Hetzel.
C'est un peu comme les films hollywoodiens au sujet de l'homosexualité. On peut avoir plein de lectures. Il y a peut-être des messages qui ont été passés ou qu'on peut décider de lire. C'est un peu pareil avec le Club des Cinq, Bibliothèque Verte, Rose.
Oui, c'était vert. C'est pareil
avec le Club des Cinq. Mais avec deux personnages de filles assez différents.
Hein, oui, et puis une fille qu'on disait à l'époque garçon manqué.
Claude. Hein,
c'est avec ce mot qui est toujours à prendre. Enfin, aujourd'hui, on ne l'emploie plus parce qu'on sait bien que ce qu'il manque à ces filles-là, c'est toujours la même chose. Or, il ne manque rien. L'équivalent pour les petits garçons n'existe pas, d'ailleurs. La langue qui a été étudiée par Talanhaut aussi dans certains de ses albums, voilà aussi un endroit où il faut porter la révolution. Je voudrais juste dire un mot sur révolution. C'est un mot très important, à condition qu'on ne le prenne pas, voilà, dans son deuxième sens et qu'on ne revienne pas au point de départ.
À 360 degrés,
exactement.
Pour reprendre une formule récente d'un ministre, une révolution qu'on termine ne nous emmène pas très très loin. Interroger le langage, Laurence Farron, c'est finalement, à la fin, si on interroge les stéréotypes, c'est chaque mot presque qu'il faut questionner la circulation du langage. Les livres n'y suffisent pas, mais ils peuvent participer, c'est aussi votre but. Comment faites-vous ?
Oui, les livres...
Avec vos auteurs. Bien sûr, je suis éditrice, je n'écris pas les livres moi-même, j'ai suffisamment de choses à faire. Mais effectivement, nous avons publié un livre auquel Nelly Chabrolgan faisait référence, qui s'appelle « Le zizi des mots » d'Elisabeth Brami, illustré par Fredel. On en a même publié deux, où l'on montre que le même mot au masculin représente un humain, un homme, et au féminin, une chose. C'est évidemment le nombre d'exemples qu'on a trouvé pour dénoncer ce sexisme dans la langue qui a son importance, puisqu'il y a assez peu de contre-exemples, quelques-uns, alors qu'on a encore en réserve de quoi faire 3-4 zizi des mots.
Et j'en profite pour parler d'un ouvrage extrêmement drôle qui s'appelle « Renversant » de Florence Inkel, c'est à l'école des loisirs. Donc là, le monde est totalement inversé entre les hommes et les femmes, et donc ça, cela permet de peser... tout le poids des mots. Il a beaucoup interloqué des enfants que je fréquente de près et qui vivent chez moi. Marianne Zuzula, même question. Les mots, et finalement, c'est chaque mot qu'il faut interroger. Super-héros, super-héroïne, finalement, on n'entend pas la même chose quand on féminise.
Effectivement, et c'est vrai que quand on fait des livres pour la jeunesse, bah voilà, c'est, enfin, il faut vraiment, voilà, être très attentif à tous les détails, au choix des mots, au choix des illustrations. Enfin, moi, je sais que par exemple, voilà, je pense que tout le monde fait ce travail-là. Quand on fait un livre jeunesse, on compte combien il y a de filles, combien il y a de filles dedans, combien il y a de garçons, combien il y a d'enfants issus, voilà, de la diversité ethnique et culturelle. On fait attention au choix des mots. Enfin voilà, c'est vraiment un travail. Je pense qu'il faut pas se fier à son instinct, parce que notre instinct est trop pétri, trop modelé justement de stéréotypes. Même si on essaye de s'en défaire, ils sont toujours là. On a grandi avec. C'est une éducation, voilà, plurimillénaire. Et effectivement, voilà, le diable est vraiment dans les détails. C'est un lieu commun de dire ça, mais plus encore quand on s'adresse aux enfants.
Mais finalement, d'autres répondront, des lecteurs, des parents, mais arrêtez, on ne va pas faire attention à tous les détails, c'est tellement épuisant, après tout, on aurait l'impression de se surveiller soi-même. C'est ce qu'on répond aussi aux féministes, laissez-nous vivre. Parfois, Sophie Gourion, c'est aussi ce qu'on dit, autrice, c'est moche, arrêtez. Enfin, on n'est pas obligé de tout féminiser, on vit très bien comme ça, après tous les principaux combats sont gagnés.
Oui, et c'est souvent justement ce qu'on nous oppose, c'est il y a forcément des combats plus importants. Donc, par exemple, le langage, ce n'est pas important. On nous demande à chaque fois de nous occuper des femmes violées, des Afghanes. Enfin bref, il y a toujours un truc plus important. Et le langage, en fait, les gens perdent beaucoup, beaucoup d'énergie à nous dire que ce n'est pas important, mais en y passant un temps fou, on explique que c'est pas important. Or, le langage, comme je le disais, est porteur de valeurs, est porteur de représentations. Et en effet, c'est une gymnastique pas toujours facile de faire attention aux mots qu'on emploie vis-à-vis de ses enfants dans les livres. Et justement, parce qu'ils sont porteurs de valeurs de représentation du monde, il faut faire attention à son langage. C'est un petit exercice, un peu pénible au départ, mais qui est nécessaire justement pour donner aux filles des rôles modèles. C'est-à-dire que quand on parle de directeur et que le mot directrice dérange, et ben voilà, c'est aussi un modèle de représentation pour les petites filles que véhicule la féminisation des métiers, notamment.
Nelly Chabrolgagne, dans cette évolution révolutionnaire, les enfants sont-ils des acteurs centraux? On parle du langage, mais finalement c'est aux enfants qu'on le transmet. Dans cette émission, on parle d'éducation. Vous qui vous êtes intéressé à l'édition jeunesse, ça passe par ça, ça passe par la manière dont on parle aux enfants.
Dans une œuvre, je pense que c'est important. Et dans un album, on lui parle de deux façons à l'enfant. On lui parle avec des images et on lui parle avec des mots. Et à partir de ces deux langages iconotextuels, l'enfant va faire sa propre histoire. Donc oui, c'est absolument capital. Et là, je pense, en nous écoutant et en vous écoutant, je pensais à un album publié à l'atelier du Poisson Soluble qui s'appelle « Bou et les trois ours ». Qui est une relecture de Boucle d'or. Et c'est un véritable langage qui est inventé. Donc, les personnages aussi qui sont capables d'inventer une langue, et les enfants font toujours, on dit, ah, tu t'es trompé de mot, tu as écorché le mot. Or non, ils n'ont rien écorché du tout, ils ont produit leurs propres mots. Évidemment, c'est pas le vocabulaire de l'Académie française, mais il n'est pas pétri, justement, ce langage-là, déjà, de tous les stéréotypes ou de mots qui sont invisibles parce qu'ils n'ont pas été mis au féminin, tout simplement. Donc oui, le langage, et c'est ça une œuvre, c'est un artiste qui est capable de mettre en forme des langages. Et dans l'album, c'est un double langage. Et sur ce double langage, l'enfant, encore une fois, mettra sa propre histoire avec ses propres mots. Donc, moi, mon mot de la fin, ça serait « Laissez libre les enfants et donnez-leur le plus de livres possible ». Deuxième mot, c'est « Bibliodiversité ». S'ils ne lisent que Martine, ça va pas, mais s'ils lisent Martine et les trois brigands, on leur donne une chance en plus.
Défendons la bibliodiversité. Ce sera le mot de la fin avant notre dernière rubrique. Merci infiniment à toutes les quatre. Toutes les références citées dans cette émission seront sur le site de France Culture à la page d'Être et Savoir. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Demain commence la semaine de la presse et des médias à l'école et jeudi, je me suis rendue dans un collège, le collège Anatole France de Châteaudun. J'ai rencontré les élèves de la 3e média qui réalisent un travail pour sensibiliser leurs camarades aux enjeux climatiques. Nous avons parlé de leur prise de conscience, du rôle des médias et de la manière dont Nathan, Erdem, Emel, Jade, Paul, Katharina et les autres voyaient leur avenir.
Je m'imagine en 2050, moi. Parce que, imaginons, il y aura peut-être plus de voiture, tout sera en plastique. Je sais pas, je m'imagine comme ça, moi. Avec plus de nature, quoi. Plus d'animaux, tout le monde meurt.
Est-ce que tu crois au pouvoir des médias pour sensibiliser la population, les citoyens ?
Bah oui, je pense que les médias, c'est la première chose. Parce qu'on écoute tous les médias, la télé, même les réseaux sociaux. Ça a un impact sur tout le monde.
Moi, j'essaie de m'informer, parfois, par-ci, par-là, mais je ne vais pas dire que je suis parfaitement informé.
Vous êtes au courant de la grève des élèves pour l'environnement
Non. Pas du tout. Pas du tout.
C'est pas pour le réchauffement climatique.
Je sais qu'il y a une marche pour le réchauffement climatique. Et ça a été fait par une petite fille qui a posté sur Internet une vidéo avec un panneau. Et du coup, le mouvement, il s'est accumulé. Et maintenant, il y a des marches à Paris, il y a des marches dans toutes les villes du monde.
Les médias, ils ont une identité. Parce que c'est eux qui vont permettre d'initier les gens, on va dire. Et c'est pareil pour nous. Nous, on est le rôle de médias, mais dans le collège, justement. Donc, c'est nous qui informons les élèves et qui les initions, on va dire.
On va écrire un article et le mettre sur le site du collège. Parce que, du coup, c'est notre rôle en tant que troisième média de faire un article dessus. Et on va dire à peu près tout ce qui s'est passé. Par exemple, il y a une activité qui fait que, en 2 heures, on doit ramasser le plus de déchets possible dans Châteaudun. Et je pense qu'on dira, on a réussi à ramasser tant de déchets, des trucs comme ça.
Et ce qui est bien aussi avec le projet, ce qu'on va faire, c'est que ça sensibilise aussi notre génération à ne pas polluer après, pour peut-être que nous, on ait un futur pas trop catastrophique non plus.
Ça nous implique plus dans ce qu'on veut faire, enfin pas ce qu'on veut faire plus tard, mais comment on peut vivre plus tard. Ce travail, il nous a permis de travailler en collectivité sur un projet qui a à voir avec notre avenir, comme disait Dylan. Du coup, ça permet d'avoir moins peur et de mieux réfléchir.
Et France Culture s'engage pour la semaine de la presse et des médias à l'école avec un grain à moudre junior spécial présenté par Hervé Gardette, enregistré mercredi matin, diffusé mercredi soir. Il y aura un numéro spécial des idées claires de Nicolas Martin et par les temps qui courent de Marie Richeux toute la semaine avec des dialogues entre lycéens, étudiants et artistes. Merci à toute l'équipe d'Être et Savoir, Philippe Baudouin à la réalisation, Avril Ventura avec qui je prépare cette émission chaque semaine avec un immense plaisir. Merci à Emmanuel Morse-Duncan, Sébastien Huel et Martin Quénard à la technique.